A long way from home.
En sol majeur.
En sol majeur.
Yasmine Joaquin.
C'est comme ça qu'on le présente, le beau Haris Rezik. C'est donc le beau Haris Rezik qui est là, un comédien chanteur cinquantenaire qui a perdu un pays, la Yougoslavie, mais qui en a gagné un autre, le théâtre, ancré dans le sud de la France, à Toulouse. Il a le trac, le beau Haris. C'est vrai qu'il vient escorter de l'enlèvement au Sérail, un spectacle mozartien dans lequel il joue et qui est en tournée en France. Mais bon, venir parler d'un Tito utopiste, de la France des Gilets jaunes peut-être, de Kusturica le géant, de Mladen Materic, son mentor et metteur en scène d'origine bosniaque, ou encore de la fanfare des Balkans qui court dans ses arpèges, ce n'est pas si simple. Zdravo et bonjour, Haris Aka Rezik.
Zdravo et bonjour.
Je suis désolée, je maltraite votre patronyme. Comment est-ce qu'on prononce correctement votre nom?
C'est un peu compliqué, donc c'est Haris Aka Rezik.
Pas simple. Est-ce que le comédien que vous êtes a toujours le trac aujourd'hui?
Bien sûr, ça ne va jamais arrêter, je pense.
Pourquoi vous pensez?
C'est même difficile à répondre à cette question-là.
Non, ouais.
C'est pas, c'est quelque chose d'organique, beaucoup plus fort qu'une explication rationnelle. Ça vient des tripes, peut-être. Rien que mon combat avec les mots, parce que c'est vraiment chaque fois une bataille de prononcer bien, mâcher les mots et être bien compris.
Oui.
Et l'oublier les paroles, ça, ce sont des choses, par exemple, qui maltraitent l'esprit.
Donc c'est bien, on va avoir droit à une vraie performance d'acteur, même dans une interview. Alors on va y aller sur des œufs, comme on dit en français. Il y a une expression en bosnien pour dire aller sur marcher sur des œufs. Vous savez ça ou pas?
Bien sûr qu'il y a. Hodeti kao po jajima.
Je m'y risquerai pas, moi. Que diriez-vous d'un retour, pour commencer, d'un retour sur l'estrade de votre école à Mostar, en ex-Yougoslavie? On y va. S.
S comme... Serment.
Avec cette question, à risque, vous rappelle ces voix d'enfant.
Voilà. Et voilà, on était sans dents, les petits gamins.
Tellement petits?
Tellement petits. C'était l'école primaire dont on avait 6 ans et demi, 7 ans.
Oh non, on n'est pas édentés à 6 ans et demi, si? Ah oui, il y a des trous.
Encore, il y a des trous.
Dans la mâchoire, c'est vrai.
Bien sûr. Et donc, il fallait se mettre dans les rangs, deux par deux, rentrer dans l'école ses premiers jours, se séparer des parents, partir dans une autre réalité. Moi, l'enfant unique, ramené dans une grande salle où il fallait donner le serment.
Donner le serment, prêter
en fait,
le serment.
Prêter le serment.
Alors c'est quoi ce serment?
Mais c'est le serment d'être un élève de Yougoslavie, donc de parti communiste au pouvoir, fidèle aux idées de fraternité, de l'unité, de travailler, être discipliné, être plus grand qu'on est à cet âge-là, déjà.
Ouais. Il y avait un costume qui allait avec le serment?
Bien sûr. Il y avait une petite blouson bleue pour les garçons, pour les filles aussi, mais elles étaient en jupe. Et nous, on avait sur la tête aussi ces genres de casquettes qui rappelait des casquettes portées par des partisans dans la Deuxième Guerre mondiale, hein, que les partisans de Tito portaient. Et donc on avait ces casquettes-là qui étaient couleur bleue, mm-hmm. avec une étoile rouge au milieu, ouais. avec aussi les foulards rouges.
Mais ça voulait dire quoi dans votre tête, être pionnier?
Être déjà un petit peu grand, de se prendre tout d'un coup sérieux et oublier ses jouets à la maison et donner quelque part ma vie aussi pour ma patrie, pour...
Prêt à travailler pour Tito?
Pour Tito, oui. On ne comprenait même pas le sens de ces mots-là.
Vous êtes né à, on dit Mostar?
Oui, Mostar.
En 1964, Haris, ouais. Mostar, c'est une ville qui a été marquée par la présence ottomane.
Oui.
Très fort, hein?
Oui. Pas bah... que à Mostar, vous savez, les Ottomans, ils étaient partout pendant 5 siècles. Donc à Mostar particulièrement, par un magnifique pont, le vieux pont de Mostar, Stari Most, conçu par un des architectes à une façon de lier deux côtés de ville par une sorte d'arc-en-ciel en pierre au-dessus de rivière, qui est d'ailleurs dans le patrimoine mondial de l'UNESCO.
Oui, qui a été détruit hein, à un moment donné pendant la guerre de Yougoslavie, puis qui a été restauré.
Ouais.
Alors les années 60 étant marquées par la figure du maréchal Tito, j'imagine que le petit pionnier que vous êtes est admiratif, et je suppose que la Yougoslavie tout entière se fige lorsque la télévision nationale annonce sa mort le 4 mai 1980.
Umro je drug Tito. To su večeras saopštili Centralni komitet Saveza komunista Jugoslavije i predsjedništvo Socijalističke federativne republike Jugoslavije, radničkoj klasi, radnim ljudima i građanima, narodima i narodnostima Socijalističke federativne republike Jugoslavije. Uskoro ćemo emitovati izveštaj sa sjednice predsjedništva Centralnog komiteta Saveza komunista Jugoslavije i predsjedništva Socijalističke federativne republike Jugoslavije.
Une archive pour en sol majeur sur RFI que vous nous avez confiée, Aris, merci beaucoup. Elle vient de la télévision nationale yougoslave et c'est une archive qu'il faut un peu nous traduire quand même.
Oui, ben voilà, c'était le moment, j'ai encore les larmes dans les
yeux. C'est vrai ?
Ah oui, bien sûr. On avait chaque matin un reportage à faire, moi et encore une fille, et parler sur la radio de télé jusqu'au jour de 4 mai.
Parler de quoi ?
Parler de son état de santé. On disait, en fait, l'analyse de médecins.
Les bulletins de santé circulaient du maréchal Tito. Ah oui.
Ça, ce qui était vrai ou ce qui n'était pas vrai, on ne va jamais savoir, bien entendu. Vous savez, c'était le moment de 4 mai, c'était un moment comme le cœur s'arrêtait de ce pays-là et le silence a commencé à régner vraiment partout.
Il faut rappeler effectivement que Tito a une aura particulière pour avoir tenu tête à Staline d'abord, en prenant ses distances avec le Kremlin et en décidant d'avoir de bonnes relations avec les pays de l'Ouest au lendemain de la Seconde Guerre mondiale, et puis aussi en ayant fondé la République fédérale populaire de Yougoslavie. D'ailleurs, son projet était résumé dans cette phrase. Il disait « La Yougoslavie a 6 républiques, 5 nations, 4 langues, 3 religions, 2 alphabets et un seul parti ».
Exactement.
Hein? C'est la Yougoslavie que vous avez vécue.
Exactement. Mais après cette annonce de mort du président, c'était annonce en fait de fin de ça, ce que vous venez de dire, de cette idée-là que Tito il a eue. Ça c'était vraiment comme dans une pièce de Shakespeare.
La fin du fédéralisme.
La fin du fédéralisme et début de...
Des
nationalismes.
Voilà. Parce que vous, donc, si on rentre dans la maison des Rézik, je le dis faux en français, mais en m'excusant, non, ça va mieux. C'est-à-dire qu'à la maison, vous parliez bosnien et vous étiez peut-être musulman, encore que c'est pas si évident que ça, mais surtout vous étiez communiste et yougoslave.
Surtout mes parents, ils étaient athées d'origine, donc bosniaque et musulman. Mais né et grandi dans cette utopie de Yougoslavie et très admirateur de cette idée-là de Yougoslavie fédérale. Puisque dans la famille le plus proche, j'avais la tante qui était serbe, les cousins qui étaient croates. Donc dans ma famille le plus proche, on était yougoslaves et rien d'autre. Et donc on parlait serbo-croate à cette époque-là. Maintenant on l'appelle bosniaque.
Alors bosniaque, c'est les musulmans de Bosnie, mais pour parler de la langue, on dit bosnien. Non.
Moi, j'ai jamais trop compris, en fait.
Ça m'arrange.
Oui, j'ai vraiment pas, beaucoup de mal à comprendre. C'est bosnien, bosniaque, tout ça. Il y a l'alphabet qui est écrit en cyrillique dans la langue serbe. Croate, c'est latin, et bosniaque aussi latin. Et donc, c'est comme français d'un Parisien et quelqu'un de Québec, bosnien.
Alors, comment vos parents... qui donc après la guerre de 92-95, après ces dates-là, ils vont se retrouver dans un pays qui s'appelle désormais la Bosnie-Herzégovine. Comment est-ce qu'ils vivent la disparition de la Yougoslavie ?
Oh, avec beaucoup de mal. Mais je pense que c'était début de leur fin aussi. Ils n'ont jamais pu accepter de perdre leur identité quelque part. Et puis, ils ont vécu aussi un enfer à cause de ça aussi. Mon papa, il a fini dans une prison, une sorte de... camp où on ramenait Ben lui, il a passé 6 mois dans un camp.
On en ramenait, dites-nous jusqu'au bout la phrase.
Les hommes qui appartenaient à un autre ethnie, disons. La folie humaine, donc. Et puis, Mama, victime sur un autre niveau aussi, en étant yougoslave déjà, perdre leur propre identité, perdre aussi l'appartement, perdre la liberté, perdre tout. Mama, qui était expulsée de l'appartement de l'autre côté de ville, a vécu l'enfer pendant des années.
Voilà. Où est-ce qu'ils se sont retrouvés?
Ben, de l'autre côté de Mostar. Mon papa, il était dans ce camp. On l'a retrouvé 6 mois plus tard, perdu 40 kilos, complètement changé d'esprit, marqué pour la vie.
Arisaka Rezik, vous l'avez dit, vous êtes un enfant unique et vos parents, qui ont travaillé toute leur vie dans l'industrie textile, sont retraités au moment de la guerre, qui commence en Croatie, sans que vous le sachiez d'ailleurs. Les bombardements arrivent.
On savait.
Vous saviez
entendu. Oui, mais par les médias, bien entendu.
Pour mémoire, en 92 à Sarajevo, la bande-son et la conversation entre Ratko Mladic, chef de l'armée de la République serbe de Bosnie, et le colonel Vukasinovic ressemblent à ça.
Le peuple de Sarajevo se sentait abandonné. Personne ne savait comment cela finirait. Personne ne savait si cela finirait. Et le 28 août 1995, un obus écrase une nouvelle fois sur le marché de Markale.
Après cet extrait de Memories of Sarajevo sur RFI pour en sol majeur, donc une pièce sur la guerre, si on traduit cette conversation balkanique à une conversation téléphonique, on a Mladic qui dit au colonel « Bombardez la présidence et le parlement, tirez à intervalles espacés jusqu'à ce que je vous donne l'ordre d'arrêter, visez les quartiers musulmans, les Serbes y sont rares, bombardez-les jusqu'à les rendre fous ». Donc, vous, Arisaka Rezik, ça corrobore complètement avec le climat que vous venez de nous décrire. Vos parents décident donc de vous faire partir, de quitter ce terrain de guerre. Dans quelles conditions on vous exfiltre? J'ose employer cette expression.
J'aurais pu faire partie de tous ces gens-là qui ont vécu cet enfer à Sarajevo si je n'étais pas en France quelques jours avant. Je retourne donc voir mes parents pour le week-end, comme je faisais souvent après le conservatoire ou après les tournées. Je descends et une explosion gigantesque à Mostar annonce la guerre le lendemain de mon arrivée à Mostar. Et ça, c'était début de l'enfer.
Et comment vous vous sortez de cet enfer?
J'étais censé de retourner à Sarajevo, donc pour spectacle que j'avais fait pour ma diplôme, Wojciech Dubichner, avec... maintenant une maître en scène qui est grande maître en scène de Sarajevo. Et je ne pouvais plus, puisque le bombardement a coupé toute la communication avec Sarajevo. Je ne pouvais plus passer par les routes ni rien. Un cauchemar. Donc je reste auprès de mes parents. Et plus je restais, plus j'ai risqué d'être envoyé au front, bien entendu. Comme j'étais à l'armée, police d'armée, j'ai pu être un des premiers aussi invités pour aller faire la guerre. Mais contre qui faire la guerre? Jamais éduqué dans ce sens-là, hein, émotionnellement. Donc, mes parents commencent à avoir très peur. Eh bien, ma mère, elle a cherché le moyen comment me sortir de Mostar. Donc, un cousin à ma maman, qui était en ce moment-là responsable de défense de ville de Mostar, confie au... Je ne sais pas si vous avez entendu parler de Vahid Halilhodžić. C'est un ancien entraîneur de Lille et Paris Saint-Germain.
D'accord.
C'est ce monsieur-là qui m'a sorti avec sa voiture de Mostar, complètement encerclé des bombardements de partout.
Hein, vous aviez une bonne étoile, Arisaka Rezik, non?
Disons que j'avais la chance, oui.
comme. Parole.
Parce qu'en fait, s'il n'y avait pas eu la guerre en Yougoslavie, il n'y aurait eu que le théâtre pour vous à Sarajevo, Haris Rezik. Hein, vous avez fait le Conservatoire National Supérieur de Sarajevo. Mais le théâtre n'a pas tout de suite été votre passion. Vous avez hésité entre deux choses qui n'ont pas grand-chose à voir d'ailleurs. Entre l'horticulture et la musique.
Et les beaux-arts aussi, la peinture. Je ne pourrais jamais décider qu'est-ce que c'est plus présent en moi. Ou l'amour vers la nature, ou la musique, ou le théâtre. C'est encore un conglomérat où je me retrouve.
L'horticulture, c'était quoi l'idée? C'était cultiver des jardins, ou c'était planter des légumes? C'était quoi?
Mostar, d'où j'étais, en fait, il y avait tout un projet de vignoble à Mostar. Et donc, mes parents, comme ils étaient un peu plus les pieds sur la terre, hein, ils voulaient que je reste à Mostar. En fait, c'était la seule façon que je puisse rester, parce qu'à Mostar, on avait l'université, mais il n'y avait pas, comme à Sarajevo, on avait. Mm-hmm. Mon seul départ de Mostar, c'était d'aller étudier à Sarajevo.
Ah, un petit mot d'avion, là.
Mais en plus...
Vite fait, bien fait.
Excusez-moi.
Et... Donc, vous enraciner à Mostar, c'était être effectivement dans...
Ingénieur de horticulture.
Voilà. Voilà. Alors, c'est la musique, finalement, des Balkans qui va l'emporter, parce que ça vous accompagne toujours. Et cette musique des Balkans, vous diriez qu'elle coule toujours dans vos veines?
J'ai l'impression de naissance, de berceau.
Ah oui?
Oui, j'ai grandi avec le rock musique, même punk à l'époque en grandissant. Musique des Balkans, là-bas, on l'ignorait quelque part.
Ah oui?
Ah oui, oui.
C'était plus chic des Mélourides.
Absolument. Et cette musique-là, qui était tout autour de nous, je découvre tardivement. Et je plonge et je comprends en fait que cette musique-là, elle était tout le temps présente à moi. Et même dès que j'ai commencé à jouer cette musique-là, j'ai compris que je respire avec.
Alors avant de vous découvrir comédien dans L'Enlèvement au Sérail, du Sieur Mozart, c'est chic ça aussi quand même, non? Je sais pas.
Oui, bien sûr.
On va faire connaissance en sol majeur avec le chanteur que vous êtes dans Improvox. Ah, c'est ce morceau-là qu'on a choisi en sol majeur. Comment vous le présenteriez ce morceau?
Ça c'est le morceau en fait qu'on a fait pour le spectacle de Futsbarn Théâtre, pour le vol au-dessus de Nid de Coucou. On a fait adaptation de roman de Ken Kesey. Et puis, j'ai dû jouer le rôle de l'Indien.
Poétique et muet.
Poétique et muet.
Ça vous va bien, ça. Hein?
Donc, il fallait faire la musique en plus d'être comédien. Et je composais cette musique-là.
And one flew over the cuckoo's nest. One flew east, one flew west. And one flew over the cuckoo's nest, over the cuckoo's nest, over the cuckoo's nest, over the cuckoo's nest, over the cuckoo's nest.
Haris Rezik, le chanteur pour en sol majeur avec Improvox, c'est donc un extrait de vos fonds de tiroir, si j'ai bien compris, de vos enregistrements multiples. Alors c'est en anglais, c'est vrai, mais c'est fou parce qu'il y a quelque chose de la musique des Balkans quand on entend votre voix. Une musique qu'on peut présenter comme étant une musique de vie et de mort. C'est comme ça que vous la vivez, cette musique, vous ?
Oui, bien sûr.
C'est lié à quoi ?
C'est peut-être lié à cette terre-là où il y avait toujours cette nuance entre la vie et la mort, très très fine. Comme peut-être que vous connaissez ces musiques-là dans les films des Balkans.
Dans des gitans, etc.
Voilà, où il y a une profonde tragédie, tragique expression dans le chant. Et puis, quelques instants après, il y a une terrible fête de la vie et d'être vivant. Cette partage-là entre les deux sont tellement fins que même... Grand compositeur ici connu, Bregovic, il a donné le nom à son band, l'orchestre des mariages et des enterrements. C'est à peu près ça, de cette raison-là.
E comme être ou ne pas être.
Être comédien à Sarajevo dans les années 90, j'imagine que c'était quelque chose de bouillonnant pour vous, Aris Aka Rezik. C'est donc la ville où vous allez étudier le théâtre de 86 à 92. Hein, vous faites vos études au Conservatoire d'art dramatique de Sarajevo. Et puis parallèlement, vous fréquentez ce qu'on appelle là-bas la scène indépendante, appelée la scène ouverte de Sarajevo. Donc, deux univers, deux formations comme ça pour le comédien en devenir que vous êtes ?
Pas du tout, c'était le seul scène. C'est un seul lien scène. Parfait en fait que les professeurs de conservatoire d'art dramatique, ils ont eu l'envie de faire une scène qui va être complètement indépendante des scènes de théâtre national de Sarajevo. Et puis ils ont creusé le sous-sol de notre conservatoire qui était couvert d'eau et ils ont installé une petite scène où on est pouvait accueillir peut-être 150 personnes. Et puis, cette petite scène devient la scène où les spectacles commencent. Se jouer, présenter les films, jouer les concerts. Donc, c'était vraiment un petit cocon d'art contemporain de Yougoslavie de ce moment-là.
En France, en 93, vous allez rejoindre, 8 ans plus tard, hein, je crois, le Théâtre Tatou, donc enraciné dans le sud de la France, à Toulouse. Et vous allez devenir le comédien fétiche du fondateur et metteur en scène serbe Mladen Materic. Et puis ensemble, vous avez monté pas mal de pièces, comme La Cuisine. Et d'après ce que j'ai lu, c'est une pièce qui met en scène donc, la cuisine, mais qui n'a pas de fonction de cuisine, c'est ça ? Qu'est-ce qui se passe dans cette cuisine-là ?
Oh, wow. Ben, le titre, c'était le « Pourquoi la cuisine ?» Et Mladen Materic, donc, metteur en scène de cette compagnie-là, a fait avec Peter Handke une création en fait sur le texte de Peter Handke où la cuisine est le personnage principal, où on mange, où on tue les animaux, où on prépare les repas, où on a les chagrins et où on prend les grandes décisions. Et bien cette importance était prise comme un espace scénique où les générations des différents humains passent, croisent leur destin, et c'était un spectacle qui m'a marqué aussi beaucoup.
Et puis vous voilà aujourd'hui donc avec les deux pieds, ou je dirais même les deux babouches, dans un opéra, je vous ai rhabillé là pour la pièce, dans un opéra de Mozart, le célèbre Enlèvement au Sérail, qui raconte donc l'histoire du noble Belmonte, qui va tenter d'enlever sa fiancée Constance, retenue prisonnière dans le palais, du pacha turc, un certain Selim, que vous interprétez. Waouh ! C'est de la composition, ça, ou pas ?
Oui, bien sûr, c'est une composition.
C'est vrai ?
Ah ben oui.
Vous êtes habillé comment sur scène ?
On a allé vers cette version contemporaine et très basique de personnage. Donc je suis habillé complètement ordinaire, avec un t-shirt sur lequel il est marqué « Kebab ».
Bon. Est-ce que vous me permettez de vous donner la réplique pendant une minute en sol majeur pour un extrait de cet Enlèvement au Sérail ?
Absolument.
Alors, musique.
Ce doit donc être une chose naturelle dans ta famille. Los Estados et dans ton pays, de commettre des injustices pour que tu considères cela comme une affaire entendue. Mais tu te trompes. J'ai trop exécré ton père pour pouvoir suivre ses traces. Reprends ta liberté. Pars avec Constance. Retourne vers ton pays et dis à ton père que tu t'es trouvé à mon pouvoir et que je t'ai rendu la liberté. Et si tu pourras dire que réparer une injustice subie par des bienfaits est une joie bien plus grande que de rendre le mal pour le mal.
Selim, tu me vois étonné.
Je te crois. Pars ainsi. Et sois au moins plus humain que ton père, et mon geste aura sa récompense.
Pardonne, Selim. J'estimais jusqu'alors la noblesse de ton âme.
Non.
Mais à présent, j'admire.
Non, je souhaite que tu ne regrettes jamais d'avoir refusé mon cœur.
Et qu'en est-il pour Blonde et moi-même ? Selim, ne te laisse pas duper par cette charogne. Pas de grâce. Il a déjà 100 fois mérité la mort.
Qu'il la cherche dans son pays. Qu'on les accompagne tous les 4 jusqu'au bateau. Voici les papiers, carte d'identité, droit de séjour. Partout vous pourrez passer.
Comment ? Blonde aussi ?
Mon vieux, tu tiens tout de même à tes yeux. Je me soucie de toi bien plus que tu ne le crois. Cette femme a beaucoup à nous apprendre.
Poison et poignard. Il y a de quoi exploser.
Calme-toi. Quand on ne peut pas gagner quelqu'un par la bienveillance, il faut bien savoir s'arrêter.
Je vous remercie pour votre humour.
Merci.
Arisaka, Rézik.
Excellent.
Que de poison, cela dit, et que de poignard dans cette tirade de l'enlèvement au sérail. On est chez Mozart, pièce dans laquelle vous êtes donc un certain Selim Pacha. C'est un personnage cruel ou c'est un personnage plus complexe que ça ?
Mais disons que c'est l'amour qui le fait grandiose. Ce bonhomme-là qui avait habitude d'avoir son harem et ordonner l'amour aux femmes. Donc l'amour, c'est ce moment-là, c'est là où son personnage se met en question et c'est là où en fait toute la beauté de pièce se crée.
Pour le metteur en scène Christophe Rulès, cette pièce qui est donc une évocation peut-être assez ambivalente finalement de l'Empire ottoman du XVIIIe siècle, c'est une œuvre de la pensée métisse. C'est très à la mode hein, le concept de la pensée métisse aujourd'hui. Qu'est-ce qu'il faut entendre par là ?
Ça peut-être il faut mieux demander Christophe.
Vous bottez en touche, cher Selim Pacha.
Ouais.
Est-ce que ça dit quelque chose de notre monde ? Je vous fais la question à 2 euros.
Bien sûr, on retrouve aujourd'hui aussi les femmes dans cette situation-là. Bien, souvent. Il y a beaucoup de sens vers cette modernité où toute une libération de femmes est en question.
Votre personnage, c'est le gardien de la tradition, celui qui veut garder son harem et ne pas forcément libérer
bien sûr.
La femme.
Bien sûr. Et puis, il y a ce moment-là où il comprend qu'il a perdu.
Qu'est-ce que ça vous apporte, un rôle comme ça, à vous, Arisaka Rasik ?
Oui. C'est vraiment toujours la question. Qu'est-ce que nous apporte ces rôles-là ? Comment l'expliquer ? Voir l'être humain tel qu'il est et tel qu'il peut être et le défendre, puisqu'il est humain aussi, et surtout lui donner cette grâce dans la cruauté qu'il présente.
Mm-hmm.
Je vois toujours ça comme un devoir d'être côté de l'être humain et le défendre avec mes propres moyens.
Votre personnage, il dit quelque chose de cette image du musulman radical, extrémiste, machiste, misogyne, etc., que une partie du monde, le monde occidental, pour ne pas le nommer, a ?
Bien sûr.
C'est ce que vous défendez ? Enfin, vous défendez l'ambivalence, justement, de
l'ambivalence, bien sûr.
J'ai adoré vous entendre dire ces répliques en français, Aris Rezik, avec votre fameux trac là, qui est magnifique. Est-ce que vous vous souvenez de la première fois où vous avez dû jouer en français ?
Oui, bien sûr. C'était donc Hamlet.
Hamlet.
Oui, le personnage encore, un autre cruel, donc oncle d'Hamlet, qui est censé d'avoir tué son père.
Mais votre sensation à vous, ce moment incroyable...
Wow.
De ne pas jouer dans votre langue maternelle. Comment vous l'avez traversé, ça ?
Mais c'était vraiment une grande, grande expérience, puisque quasiment j'ai essayé de me traduire moi-même sur la scène, parce que mes pensées, elles étaient encore sur ma langue maternelle, et la langue présentait un fond sonore. Donc ce lien-là, c'était vraiment pas facile à...
Et vous en êtes toujours là quand vous jouez en français aujourd'hui ?
Toujours beaucoup de tracks, bien sûr. Ce qui est important, c'est respirer avec la langue, bien entendu. Sur la scène, c'est ça, même à ma langue maternelle, puisque quand j'étais étudiant au conservatoire, j'ai commencé à travailler avec Mladen Matéric, parce que c'est pièce sans théâtre, c'est théâtre sans parole.
Et voilà.
Et c'est 30 ans que je travaille avec ce monsieur-là, sans parole.
Mais c'est finalement un avantage, parce que du coup, vous n'avez pas eu à désimprimer, si j'ose dire, la langue maternelle qui aurait pu encore laisser son empreinte en vous, non ?
Fort possible.
Est-ce que ça s'oublie, une langue maternelle ?
Non. La musique de langue maternelle, ça ne s'oublie pas. Parfois, je me retrouve de penser en français et me dis, mais comment je dis ça ? Mais vite fait, je retrouve le mot, bien sûr.
Vite fait. Parce que vite fait, puisque je vous ai fait les poches, il faut toujours faire les poches d'un comédien. Est-ce que vite fait, vous pourriez nous dégainer votre pocket checker ? Je ne sais pas ce que c'est des percussions de poche ? Vous auriez une minute en sol majeur, je ne sais pas, un chant traditionnel peut-être, dans cette fameuse langue maternelle qui est la vôtre, Aris Rezik.
Et vous, Roumaine Rouge, Ismoglie Pong, Perivoya, Nadar Tembi. Душу шалем и меняем, люба моя.
Est-ce qu'on était en terrain poétique, cher Aris, pour un sol majeur?
Absolument.
De qui était le poème?
Ça, c'est une chanson des siècles, une chanson bosniaque d'amour.
Qui dit quoi ?
Difficile à traduire de suite.
Ah voilà, le fameux exercice.
Il donne une rose comme un poignet d'amour vers quelqu'un. Cette rose-là, si ne plaît pas à cette fille-là, qu'elle le jette dans le feu.
C'est un proche chevalier, quoi, qui
tout
parle.
Le temps,
forcément,
c'est beaucoup de...
Tant qu'il y aura des princesses et des princes charmants. En tout cas, vous, le comédien né dans les Balkans, vous, le bosniaque, comme vous dites, comme référence d'acteur, parce qu'il faut quand même qu'on en parle, vous avez au moins un Polak.
I am not a Polak. People from Poland are Poles, they are not Polaks. But what I am is 100% American. I'm born and raised in the greatest country on this earth, I'm proud of it. And don't you ever call me a Polak.
Me, I'm sure.
Just keep your seat. I'm not so sure. Hello. Yeah, Mac.
Get your hands off me, Stella. What's the matter with you? Why do you look at me with that pitying look?
Will you shut up? No, we got a noisy woman in place. I told you I don't want a bowler rise. I had a little trouble with Riley last week. Well, I'm the team captain, ain't I? All right, then we're not gonna ball around. We're gonna ball the west side of it together, and I'll see you. Sister Blanche, I got a little birthday remembrance for you. I hope that you like it. That's a ticket back to Oriel on the bus, Tuesday.
Vous aurez sans doute reconnu pour un sol majeur sur RFI son t-shirt mouillé et son phrasé inimitable à cet immense acteur, Aris Rezik. Vous faites des yeux, Marlon Brando, pourquoi ?
Simplement parce que c'était le plus juste et plus sincère. Hein. Dans tous les films que j'ai vus, partout cette sincérité et cette force. de vivre la situation humaine.
Il aurait mérité d'être yougoslave. C'est une blague.
Mais on dirait qu'il est des Balkans, quelque part. Tout à fait.
Là, je dis ça parce que je pense quand même à un géant du cinéma qui fait évidemment partie de votre ADN de comédien, si j'ose dire, Emir Kusturica, que vous avez sans doute croisé lorsque vous étiez au Conservatoire supérieur d'art dramatique de Sarajevo. Il était professeur, mais enfin, il avait déjà, je sais pas, une carrière internationale sur le feu, donc il n'était pas très assidu comme professeur. Mais quand même, vous, vous vous souvenez de Souviens-tu de Dolly Bell, c'est son premier long métrage. Hein.
Ouais.
Je me souviens davantage du Temps des Gitans et de Underground. Mais sa manière de filmer, si on s'y penche une seconde, c'était quand même une manière où il y avait du poétique, du féerique, du fantastique, enfin tous les ingrédients que l'on sait chez lui. C'était une manière de donner une carte d'identité à la Yougoslavie. Qu'est-ce que vous retenez, vous, de Kusturica?
Ben exactement ça. Hein. Donc, pardon, j'ai eu la chance de le voir à l'école beaucoup aussi dans cette scène ouverte de Sarajevo aussi. On a vécu un rêve tous ensemble avec les professeurs. Et en même temps, en allant au cinéma ou regarder les films, je voyais l'identité de ce pays-là avec tous ses problèmes et avec toute cette misère humaine aussi, traduite d'une façon semblable qu'à lui.
Et vous a transmis le goût du métier et le goût de cette identité?
Bien sûr. Mais avec ses premiers films, j'ai découvert donc la musique qui m'entourait depuis une naissance. Mais je n'ai jamais fait attention de beauté de cette musique-là. Il a appuyé sur les choses invisibles, mais archi-présentes. Il savait traduire l'ordinaire à extraordinaire. Hein, en s'inspirant de Marc Chagall, de tous les grands de cinéma, Tarkovsky. Mais en même temps, avec que des choses qu'on voyait chaque jour. Et simplement, on ne les voyait pas dans cette couleur-là hein, aussi. La vie des Gitans, par exemple. Cette immense culture qui était juste à côté de nos villes. C'est le premier des réalisateurs de mon pays, ex-pays bien entendu, qui a appuyé sur cette reconnaissance-là aussi du peuple gitan, par exemple.
Sinon, vous dites qu'il y a trois personnes qui ont changé votre regard à vous, Harris. Votre regard d'artiste et d'homme, sans doute. Bob Wilson, le metteur en scène, Fellini, le réalisateur, et Picasso, le peintre.
Mmh. Oui, ben voilà.
Pourquoi ces trois-là?
En regardant première fois le Bob Wilson, ou en voyant la première fois les peintures de Van Gogh, ou le film Amarcord de Fellini, mais j'ai commencé à comprendre ce que la réalité est. Elle est et elle peut être aussi. Autrement, comment moi je voyais ça.
Est-ce qu'on jouerait à J'aime, j'aime pas ensemble? Alors bienvenue en France.
Moi j'ai eu des gaz lacrymo dans la figure, c'est très compliqué. Hein. On n'est pas habitué, en plus je manifeste jamais, là c'est la troisième fois. Mais vraiment, je lâcherai pas, quoi.
Les citoyens, pas pour casser les mouvements, non?
Et si vous êtes des casseurs, cassez-vous, hein.
Ça se passe qu'on fait des allers-retours parce qu'on se fait gazer quand on est en haut, quand on est en bas. On essaye d'être... Même tout à l'heure, on chantait, on était très nombreux, ça chantait, ça dansait, et on a pris quand même des grenades lacrymogènes sur la figure, quoi. Ça n'empêche pas que malheureusement, il y a des casseurs, hein, ça on connaît, hein. Mais c'est disproportionné parce qu'à 90%, les gens sont pacifistes, quoi.
Je reviendrai la semaine prochaine s'il le faut, et puis les samedis suivants, et jusqu'à ce qu'il y ait des réponses, jusqu'à ce qu'on nous entende, qu'on soit compris.
J comme j'aime, j'aime pas.
C'est important de mélanger les disciplines artistiques pour développer le sentiment aussi. La seule chose que je n'utilise pour l'instant pas, et c'est la parole intelligible, parce que pour moi, la parole intelligible n'a jamais fonctionné avec le travail des chevaux, parce que parler au duo d'un cheval, pour moi, ça n'a pas de raison d'être, quoi. C'est servir du cheval comme piédestal.
Zingaro, le théâtre équestre de Bartabas, qu'on vient d'entendre au micro de RFI.
Je peux dire que j'aimais. J'ai adoré parce que c'était le premier théâtre que j'ai vu en arrivant en France au Festival d'Avignon, qui a aussi une grande impression sur moi. Puis après, en vivant ici, j'ai compris la personnalité de ce monsieur-là,
ah,
qui a dépassé peut-être les bornes quelque part. Donc j'ai commencé un peu à douter de la sincérité de son théâtre, simplement.
Et toc. Les Gilets jaunes, ce mouvement de contestation anti-Macron dans notre France.
Parfois, je ne comprends pas. Mais je dois dire que j'aime ce que ces gens-là ils veulent obtenir, mais de façon beaucoup plus calme et paisible que comment j'ai vu au début ce mouvement-là. Mais en quoi ça se transforme, c'est hallucinant. Cette violence autour, ça me choque et ça me rappelle bien des choses déjà vécues. Et ça me fait peur.
Le communisme.
Maintenant, j'aime pas. J'aime pas les présentants de communisme. L'idée, oui, bien sûr.
Les escargots de Bourgogne.
C'est quoi?
Bah, c'est des animaux, quoi. Vous n'avez pas goûté encore les escargots?
Le plat?
Les moules farcies, des choses comme ça.
Ah, d'accord. Bah oui, bien sûr.
Oui.
Ah ouais.
Ou alors le palais, il est toujours habitué à une certaine cuisine slave.
Ah non. Je me laisse prendre le plaisir de tous les délices, ouais, ici en France.
Le passeport européen.
Bien sûr, l'Europe c'est comme Yougoslavie avant, c'est une magnifique idée. Mais j'espère que ça va avoir encore un long temps à vivre ensemble, à vivre cette idée-là. Hein.
Vous l'avez ce passeport, non?
J'ai passeport français, mais qui est automatiquement européen, bien sûr.
Alors perdre un pays comme c'est votre cas, Harry, c'est pas un petit événement, hein, et j'imagine que ça détermine un autre rapport à la notion justement de pays, de patrie et d'identité. Vous en êtes où avec tout ça?
Je sais pas quoi vous dire sur ça. Avoir un pays et puis perdre ce pays-là et retrouver un autre pays comme une autre nouvelle identité, c'est un chemin que je parcours encore. Donc c'est très difficile à me situer. J'ai l'impression que cette vie-là, dans cette Yougoslavie-là, c'est comme une autre vie que j'ai vécue. Perdre tout ça, c'est sortir des pages d'un livre que j'ai lu et les jeter et brûler quelque part. Des fois, j'ai ce sentiment-là aussi. Je ne le souhaite à personne, en tout cas.
On parle souvent de Yougo-nostalgie. Est-ce que vous vous sentez toujours encore, même si les pages du livre ont été déchirées, est-ce que vous vous sentez toujours l'âme yougoslave ou l'âme bosniaque?
Bien sûr, l'âme yougoslave, bien sûr, parce que c'est très difficile à y aller dans ce pays-là, géographiquement, un pays de 7 pays maintenant.
C'est toujours un pays pour vous dans votre tête?
Dans ma tête, c'est encore un pays. Et je ne peux pas encore accepter ces frontières-là. Et dans mon esprit, c'est toujours, quand je pense à la Yougoslavie, c'est cette forme-là qu'elle avait quand j'étais gamin, et quand on apprenait géographie ou histoire devant la carte, dans ces frontières-là de ce pays, maintenant.
Le serment, premier serment, des pionniers, sûr. Il est toujours dans votre tête, il est toujours vivant.
Mais ça ne va jamais partir. Parfois, j'ai envie de me libérer et essayer un peu de me concentrer sur ce que je vis aujourd'hui. Parce que présence de passé est parfois très, très lourde. Surtout le passé si imposé.
En sol majeur, @rfi.fr.
À choper, puisque c'est en tournée en France, L'enlèvement au sérail de Mozart sous la direction de Julien Chauvin, dans une mise en scène de Christophe de Rulles, avec dans le rôle du Pacha ottoman, notre invité Haris Aka Rezik, avec une date pour cette tournée, les 9, 11 et 12 janvier 2019. L'enlèvement au sérail sera au Quinconce Lespal, c'est au Mans, donc en France, mais c'est une tournée française à suivre. On va se quitter avec le prince de la nuit et des angoisses. C'est comme ça que le présentait Andy Warhol, Lou Reed. Peut-être que c'était son côté slave d'ailleurs, non?
Fort possible.
Peut-être, hein, sait-on jamais. On va tenter d'avoir le temps d'écouter sa version de I'll Be Your Mirror et d'écouter votre version à vous. Je serai ton miroir, en français.
Reflect what you are, Kate, you don't know. I'll be the wind, the rain and the sunset, the light on your door. Show that you're home when you think the night has seen your mind. That inside you're twisted and unkind. Let me stand to show that you are blind. Please put down your hand, 'cause I see you. Thank you. believe that you don't know the beauty that you are.
Je serai ton miroir, ton reflet, au cas où tu ne saurais pas qui tu es. La 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 la.
J'ai du mal à croire que tu ne sais pas à quel point tu es belle, mais si c'est le cas, je serai tes yeux, une main dans tes ténèbres. Que la nuit a voilé ton esprit, que tu es tordu, cruel, je me dresserai pour te montrer ton erreur. Enlève tes mains de tes yeux, parce que je te vois, parce que je te vois.
Je serai ton miroir, ton reflet, au cas où tu ne saurais pas qui tu es. Ton reflet, au cas où tu ne saurais pas qui tu es, qui tu es, qui tu es. La 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 la.
J'ai du mal à croire que tu ne sais pas à quel point tu es belle, mais si c'est le cas, je serai tes yeux, une main dans tes ténèbres, et tu n'auras plus peur, et tu n'auras plus peur. Si tu crois que la nuit a voilé ton esprit, que tu es tordu, cruel, je me dresserai pour te montrer ton erreur. Enlève tes mains de tes yeux, parce que je te vois. Parce que je te vois.
Je serai ton miroir, ton reflet, au cas où tu ne saurais pas qui tu es, qui tu es, qui tu es. Je serai ton miroir, ton reflet, au cas où tu ne saurais pas.
Sol majeur avec Facebook, Twitter et en podcast sur notre application Pure Radio et bien sûr derrière votre poste. Chaque samedi, chaque dimanche, à 14h10 temps universel, 15h à Paris, Sophia Bédard, Laura Pinto, Yasmine Chouaki, on vous retrouve et on vous espère demain avec un romancier mauritanien nommé Berouk. À demain.